Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023. Il fait beau dans le Beaujolais et le Val-de-Saône avec toujours du soleil. Les quelques nuages qu'on avait hier s'en sont allés. Ma voix s'en est allée aussi. Et les températures sont toujours fraîches autour de 7 degrés cet après-midi. Dans notre émission, nous allons retrouver notre diététicienne nutritionniste Charline Simian ainsi que notre spécialiste socio-économique, le prof Patrick. Mais avant ça, on va passer un moment avec notre invité du jour. Tiens, est-ce que vous lisiez quand vous étiez jeune des livres dont vous êtes le héros? C'était des bouquins qu'on lisait avec un crayon à papier à la main, parfois un dé. Et à la fin de chaque page, il fallait faire un choix. Si vous voulez aider le marchand à ramasser les pommes qu'il a fait tomber, vous vous rendez page 37. Et si vous en profitez pour lui voler ses pommes, rendez-vous page 42. Bon, c'était des livres qu'on lisait plein de fois d'affilée pour être sûr d'avoir lu toutes les possibilités. On notait son itinéraire pour revenir en arrière si on avait fait un mauvais choix. C'était super sympa. Eh bien, figurez-vous que la Philharmonie de Belleville, l'orchestre, organise un concert dont vous êtes le héros. Quelle drôle d'idée, quelle bonne idée. Comment est-ce possible? Comment ça va se passer? C'est Vincent Leb, directeur musical et chef d'orchestre, qui va nous expliquer tout ça. Et le concert, ben, je vous donne les dates quand même. Il aura lieu deux fois, le 11 mars à 20h et le 12 mars à 15h au Théâtre de la Grenette à Belleville. Avant de parler de ce concert dont vous êtes le héros, on commence l'émission en musique et on écoute Bowie avec le titre Heroes. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous. One day. sur Calade avec Heroes.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on est avec Vincent Leb, directeur musical de la Philharmonie de Belleville. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on va parler plus particulièrement d'un concert dont vous êtes le héros. Ça aura lieu les 11 et 12 mars prochains, on va en parler un petit peu plus en détail. Avant, on peut revenir sur la Philharmonie de Belleville, on en avait parlé, il me semble, pendant le confinement, c'est ça ?
On s'était rencontrés à ce moment-là, tout à fait, oui, pour parler un petit peu de ce qu'on faisait pendant le confinement et de ce qu'on pouvait faire en tant qu'orchestre d'harmonie.
Ouais. Je me souviens plus, Philharmonie, est-ce que c'est un orchestre particulier ?
Alors Philharmonie, c'est un vieux mot qui veut dire simplement des amateurs qui aiment la musique. Donc on retrouve ce nom dans pas mal d'orchestres, même des orchestres prestigieux, comme on parle de la Philharmonie de Paris notamment. Mais voilà, nous c'est la Philharmonie de Belleville, simplement que ça a été fondé il y a plus de 100 ans à Belleville, et donc avec des gens qui aimaient se retrouver faire de la musique. Notre orchestre, c'est un orchestre d'harmonie, donc ce sont uniquement des percussions et des instruments à vent, donc cuivre et bois.
Et c'est associatif, enfin c'est soutenu par une association.
Voilà, c'est l'association qui soutient l'orchestre, et donc l'orchestre est représenté par environ une cinquantaine de musiciens amateurs et de tous âges, puisque c'est une des particularités de ces orchestres souvent, c'est d'accueillir les petits comme les grands à partir de 12-13 ans jusqu'à un âge dont je ne dirais pas le montant le plus élevé.
Très bien. Et oui, à partir de 12 ans, on peut intégrer la Philharmonie ?
Oui, alors ça dépend après. Nous, en fait, l'orchestre n'a pas d'école de musique qui est directement rattachée. On travaille avec les écoles de musique des environs. Et quand les élèves sont suffisamment prêts, ont déjà un certain niveau pour suivre en orchestre des partitions, pour déchiffrer, pour suivre un chef d'orchestre, ils nous rejoignent. Donc selon les années, on a des plus ou moins jeunes qui nous rejoignent.
Et qui prennent des cours de musique à côté.
Voilà, c'est ça. On a des jeunes de l'école de musique de Belleville, mais aussi des environs, et puis un certain nombre d'adultes aussi qui continuent leur pratique et qui nous rejoignent. Donc on a des gens qui viennent de plus ou moins loin pour venir jouer le vendredi soir à l'orchestre.
Ouais. Les répétitions, c'est ça, c'est le vendredi soir. Et vous jouez quoi à la Philharmonie de Belleville ?
Alors on joue des programmes assez variés. On va dire qu'en temps normal, on fait des programmes qui mélangent différents styles. Donc c'est l'avantage qu'ont les orchestres d'harmonie, c'est de pouvoir jouer à peu près tous les styles. De la musique classique, de la musique originale, c'est-à-dire des pièces spécialement écrites pour ces orchestres-là. Mais aussi du jazz, voilà, des musiques du monde, du rock. On fait un certain nombre de choses. Et puis selon les années, on peut se permettre de temps en temps de faire des programmes un peu plus thématiques. On a fait il y a quelques années, par exemple, des concerts musique de film. Voilà, un certain nombre de choses un peu plus thématiques. Donc ça dépend des années et des volontés du chef et des musiciens.
D'accord. Vous m'avez dit c'est percussions et vent, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais. Les cuivres, pour moi, c'est l'instrument le plus festif. C'est la famille d'instruments la plus...
C'est ça, donc on la met dans la famille des vents. Ouais. Dans la famille des vents, on a deux familles, les cuivres, les trompettes, les trombones, les tubas et tous les autres. Et puis les bois, c'est tout ce qui est flûte, clarinette, basson, bois, etc.
Et donc, vous faites aussi, j'ai vu des défilés.
Oui, c'est ça. On fait en plus de nos concerts, qui sont quand même le gros de l'activité de la Philharmonie de Belleville, on assure les autres fonctions, on va dire, un peu traditionnelles, historiques des harmonies, à savoir les cérémonies nationales, puisque ça, c'est quelque chose qu'on fait les 8 mai, le 11 novembre, 14 juillet, etc. Et puis, on anime aussi, là, on sort d'une période de défilé de conscrits, par exemple.
Ouais.
Voilà, c'est aussi une activité qu'on a souvent à ce moment-là de l'année pour animer les fêtes des villages aux alentours.
Et ce qui est essentiel.
Ce qui est essentiel et qu'on en a bien besoin.
Et donc, les 11 et 12 mars prochains, vous allez proposer un concert dont vous êtes le héros.
C'est ça, c'est un titre un peu étrange.
Ouais, moi ça m'a fait penser à des bouquins que j'ai lus pendant toute mon adolescence, les livres dont vous êtes le héros.
Eh bien, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de faire un concert participatif. Donc, un concert participatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un concert, en fait, tout simplement, où le public est amené à sortir de temps en temps de son rôle de spectateur pour être directement acteur du concert et donc de pouvoir participer d'une façon musicale ou non musicale à l'exécution des pièces et de rendre ces pièces entre guillemets plus intéressantes que si elles étaient jouées uniquement par l'orchestre, même si elles sont déjà forcément très bien. Mmh. Et pourquoi on appelait ce concert le concert dont vous êtes l'héros ? Parce que tout simplement il y aura un des moments, peut-être qu'on en reparlera après, qui est directement inspiré des livres dont vous êtes le héros.
D'accord. Moi, c'est des livres, on choisissait une action entre deux possibilités. et ça changeait le cours de l'histoire, on nous disait à quelle page il fallait aller. Ça veut dire que le concert, il y aura deux représentations, les deux ne seront pas les mêmes.
Alors c'est ça, les deux ne seront pas du tout les mêmes, même si à la base on a un certain nombre, nos morceaux et la participation du public sont définis à l'avance. Ce qui va changer bien sûr, c'est la réaction du public, et autant certaines choses le public est plus ou moins guidé, autant à certains moments il sera un peu plus libre, voire c'est lui qui va prendre la main sur le concert. Voilà, par exemple, un des moments du concert, ça sera donc la musique dont vous êtes le héros.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on a inventé. En tout cas, on n'a pas trouvé ça de trace ailleurs. Le principe est assez simple. On a une musicienne de l'orchestre qui a écrit une histoire sur la base des livres dont vous êtes le héros, donc avec des choix à faire au fur et à mesure de l'histoire. Nous, on a attribué à chaque passage qui sera raconté une musique qui va être jouée une fois que le texte sera lu, pour illustrer de façon musicale les ambiances du passage. Et en fait, le public va être amené à voter avec des panneaux de vote à différents moments, en fonction des propositions qui seront faites pour savoir quel chemin de l'histoire il veut s'embarquer.
On tourne à gauche, on tourne à droite,
exactement. Et à partir de là, nous, on va devoir réagir en fonction du choix des musiciens, du public, pour tout de suite jouer la musique qui correspond. Donc nous aussi, on a un certain nombre d'embranchements sur nos partitions.
D'accord.
Et donc, il va falloir qu'on soit assez réactif pour tout de suite proposer la musique qui va décrire ce passage. Donc ça, c'est un des moments du concert, ça va être cette fameuse musique dont vous êtes le héros.
Comment ça se crée, du coup, un concert comme ça? C'est deux fois plus de travail qu'un concert normal?
Alors, c'est beaucoup plus de travail qu'un concert normal. En fait, il faut imaginer que dans un concert classique, entre guillemets, on a toute la partie musicale, et c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. Là, on a cette partie musicale. En plus, on a toute la réflexion qu'il a fallu avoir en amont pour imaginer de quelle façon, en fait, le public va pouvoir participer, puisque notre concert participatif se veut entièrement participatif. Des concerts participatifs, on en a, ça existe parfois, on en retrouve notamment à l'ONL, à l'Auditorium National de Lyon par exemple, où l'orchestre propose chaque année un concert participatif, c'est-à-dire que sur une des pièces, des musiciens amateurs sont invités à venir avec leurs instruments et jouer un petit bout avec l'orchestre, donc c'est une expérience absolument fabuleuse. Et nous, comme on n'a pas voulu faire les choses simplement, on s'est dit il faut qu'à chaque pièce, en fait, le public fasse quelque chose et participe d'une façon avec nous. Donc il a fallu, en plus du travail des pièces, du travail musical, réfléchir à toutes ces choses-là, qu'elles soient assez variées, qu'elles soient assez ludiques, qu'elles soient adaptées pour tous les publics.
Accessibles aussi.
Accessibles, bien sûr. Et du coup, réfléchir à toute la mise en œuvre. Et en plus, sur le travail musical, comme on l'a expliqué avec la musique dont vous êtes le héros, pour les musiciens qui ont bien travaillé leurs morceaux, on leur dit à un moment, en fait, on va découper votre morceau, on va changer le sens, on va faire le début avant la fin, le milieu, on va prendre une autre pièce en plein milieu. Donc voilà, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations, mais c'est aussi ça qui est extrêmement riche et plaisant à faire pour les musiciens.
Le public va pouvoir jouer de la musique aussi?
Alors le public va bien sûr pouvoir jouer de la musique, il va pouvoir, sur une des pièces notamment, il va pouvoir chanter avec nous.
Ouais.
Donc le principe est assez simple, c'est comme à la chorale, avant de commencer le morceau, on va apprendre les différentes choses à chanter. Alors je rassure tout le monde, c'est des choses extrêmement simples, extrêmement courtes, qui sont même adaptées pour les enfants, donc bien sûr, le but c'est d'apprendre vite, puisque si on passe une heure à apprendre, on fait que ça du concert, donc c'est quelque chose qui doit se faire très très rapidement. Il y a une autre pièce où ils vont jouer des percussions avec nous.
Okay.
Donc là, on a récupéré 200 petites percussions avec les écoles des alentours et nos partenaires pour que chacun ait un instrument dans les mains au moment de jouer. Et puis, il y aura aussi une participation qui ne sera pas musicale. Et donc là, il a fallu être un peu imaginatif pour avoir quelques clés de comment un public qui vient à un concert peut rendre une pièce de musique plus intéressante sans faire de musique.
Ouais. Okay.
Voilà, donc on a.
On va pas donner tous les secrets.
On va pas donner tous les secrets,
c'est
mais.
Des surprises.
Voilà, exactement. Mais l'idée, c'est que il y a un certain nombre de petites surprises et des choses assez, assez, assez originales. Donc j'espère que le public sera au rendez-vous.
Et comment ça se travaille? Enfin, déjà eu toute la partie d'imagination et de création, mais j'imagine que les répétitions, elles ressemblent pas aux répétitions d'habitude aussi.
Jusqu'à il y a quelques semaines, c'était des répétitions où déjà on travaille la musique parce que ça reste un concert et nous on tient absolument à ce que ça reste quelque chose qualitatif. Quelqu'un qui à un moment voudrait pas participer, qui voudrait juste aussi écouter, il faut qu'il puisse trouver son bonheur. même si le but c'est que tout le monde participe. Après, ça fait quelques temps, on commence à réexpliquer, à intégrer, à aussi expliquer à tous les musiciens le fonctionnement, comment ça va se passer sur chaque pièce. On a eu un petit groupe de travail en parallèle avec quelques musiciens pour aussi imaginer, aider à la réalisation de toutes ces tâches. Et puis là, on commence un petit peu, à assembler les choses, à enchaîner différents passages, parce qu'on se rend compte, notamment dans la musique dont vous êtes le rook, qu'il va falloir être réactif, donc on travaille différentes possibilités, on essaie de, voilà, quand le public va voter, comment on réagit, etc. Là, il faut qu'on se déplace, là, il faut qu'on bouge. Donc c'est tout un certain nombre de choses qu'il faut intégrer, et effectivement, pour des musiciens qui ont l'habitude de rester à leur chaise et de jouer simplement, entre guillemets, leur partition, là, ça leur demande des compétences supplémentaires et une réactivité aussi qui doit être travaillée en amont, donc c'est un peu c'est parfois un peu le chantier, mais c'est aussi ce qui fait le fun de ces répétitions pour préparer ces deux concerts.
Ça avait déjà été fait un petit peu en 2017, quelque chose de participatif, en tout cas c'est différent là, cette année.
Voilà, en 2017 on avait fait un concert qui s'appelait Voyage au centre de l'orchestre, et le but c'était en fait d'expliquer le fonctionnement d'un orchestre au public, d'expliquer le fonctionnement, c'est-à-dire de rentrer un petit peu dans les détails. On avait proposé aux gens, par exemple, de s'asseoir au milieu des instrumentistes pendant l'exécution des pièces. On avait fait tout un système d'explication de comment on construit un morceau, pourquoi il y a des basses, pourquoi il y a des mélodies, qui les joue, quel est le rôle de chaque instrument. Tout une série aussi d'échanges, de questions-réponses qui étaient très intéressantes, qui permettaient parfois de lever un petit peu certains mystères, à quoi ça sert un chef, etc. Là, l'idée, c'est d'être un petit peu moins dans l'explication du fonctionnement, plus dans le fait de participer directement. Mais l'idée, on est resté sur quelque chose, encore une fois, de très ludique et avec beaucoup d'échanges entre l'orchestre, le chef et les spectateurs, pour que tout le monde passe un beau moment et que ça soit surtout pas un moment stressant où les gens n'osent pas jouer. Il faut que tout le monde prenne du plaisir, et le but c'est un peu de changer aussi ce rapport entre le public et l'orchestre. C'est quelque chose qui est assez établi et nous on aime bien un petit peu chambouler tout ça.
Très bien. Bon, je rappelle le rendez-vous, c'est les 11 et 12 mars, samedi et dimanche, pas cette semaine, ceux d'après. Le samedi à 20h, le dimanche à 15h, et c'est au Théâtre de la Grenette à Belleville. Il y a d'autres... c'est une idée géniale. Vous avez d'autres idées un peu farfelues dans votre tête pour le futur
Alors, on a toujours des idées farfelues. Ouais. c'est pas les idées qui manquent. Après, c'est...
comment les mettre en place.
Voilà, c'est comment les mettre en place. On espère, l'an prochain, ça sera un anniversaire de l'harmonie. On tient pas forcément à faire un gros gâteau d'anniversaire, mais plutôt des concerts un petit peu différents. Donc on imagine plutôt pour l'an prochain une suite de concerts tout au long de l'année, en essayant à chaque fois aussi là de changer un petit peu les formes. On a différentes pistes pour l'instant, il y a rien de précis et de défini, mais la liste des idées est assez longue à Belleville, donc en fonction aussi des envies, en fonction des opportunités, on se laisse le temps, mais on essaye régulièrement de proposer des choses originales. Ouais.
Et si ça donne envie à des gens qui viennent vous écouter de venir participer à la Philharmonie, qui se disent c'est trop chouette, moi aussi j'ai envie de faire...
Et on les accueille avec plaisir.
Ça marche comment?
Alors ça marche tout simplement, dans ce cas-là il suffit de nous contacter. Il faut être un instrumentiste de l'orchestre, en tout cas avec un instrument qui correspond à notre orchestre. Après on en discute simplement, on fait pas passer d'audition, on fait pas de test. Après c'est juste, il faut que les gens se sentent suffisamment à l'aise, parce que j'aime pas trop dire ça, mais il y a un petit niveau quand même qui est nécessaire pour aussi suivre, être à l'aise, etc. Mais après, tout le monde, ceux qui ont envie, viennent faire un essai. On accueille régulièrement des gens qui viennent faire un essai. Il y en a peu qui repartent, mais en tout cas, les gens sont souvent contents. Donc, ne pas hésiter à nous contacter, soit par le site internet, soit en connectant directement un musicien. Et puis, ça se passe toujours simplement.
Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous présenter, nous parler de la Philharmonie et puis surtout de ce beau concert, le concert dont vous êtes le héros.
Et bien, merci beaucoup. Et puis on donne rendez-vous donc les 11 et 12 mars à Belleville.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute Ben Mazuy avec Imprévu.
Jouer à 10, fonctionner dedans, l'âme et les doutes. T'as-t-elle répondant de ton esprit dans les joutes? tenter dès lors d'être poussé dans les cordes. T'inquiète, quand tu me diras stop, je te dirai d'accord, j'arrête. La couleur de la colère dans mes mots. J'aime pas l'odeur de ton corps quand t'as chaud. T'aimes pas l'immobilité des mots, la malhabilité des badauds. Quand je te bats mes palabres et compte des visages, je compte qu'à l'usage, les comptes dégagent de mon paysage. On t'arrive pas de gage sur les idiots de crasse. Ce sont les normaux qui m'angoissent. Je veux sortir de moi, laisser couler le contenu, laisser rentrer l'imprévu. Je veux sortir de moi, laisser couler le contenu, laisser rentrer l'imprévu. Le hasard, c'est le sel, c'est le piment, c'est ma drogue, c'est le tirant d'eau sous lequel mon bateau va. Le hasard, c'est le sort, comme un coup de tonnerre, un coup de pouce, un coup de colère, d'un coup de frousse, du coup perdu. Pourvu qu'il ne m'arrive rien, tu dis sagement, pourvu qu'il m'arrive rien, le pire c'est que tu penses vraiment. Je veux sortir de moi, laisser couler le contenu. Laisser rentrer l'imprévu. Je veux sortir de moi, laisser couler le contenu. Laisser rentrer l'imprévu. À chaque fois que le sort se pointe, on le reporte au lointain. On dit c'est mieux quand c'est voulu. Des voyages, on ne raconte que ça. Il ne reste que les imprévus. Pourtant, on dit c'est mieux quand c'est voulu. À chaque fois que le sort se pointe, reporte au lointain. On dit c'est mieux quand c'est voulu. Un chemin tout droit, chemin direct la mort en face. On dirait que tu la vois pas, tu la vois quand tu me traces. Un chemin tout droit, chemin tout droit, direct la mort en face. On dirait que tu la vois, tu la vois quand tu me traces, quand tu me traces. Je veux sortir de moi, laisser couler le coin, laisser couler le coin, laisser rentrer l'imprévu, laisser rentrer l'imprévu. Je veux sortir de moi, laisser couler le contenu, laisser couler le contenu, laisser rentrer l'imprévu, laisser rentrer l'imprévu.
C'était Ben Mazué sur Calade avec le titre Imprévu.
Mais vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
Ah, c'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Et tout de suite, on retrouve donc Charline Simian. Bonjour Charline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On parle en ce moment dans cette rubrique du PNNS, le Plan National Nutrition Santé.
C'est bien Mathieu.
C'est bien. Je
vous apprenez au fur et à mesure.
Alors la dernière fois, vous nous expliquiez qu'il y avait cet aspect d'augmenter certaines choses dans nos comportements. De quoi on va parler aujourd'hui?
Alors, du coup, le deuxième plan de ce PNNS, il y a donc ce côté augmenté. Je vous rappelle, c'est vraiment ce qui concerne les gens qui sont en population générale, donc pas des gens qui vont souffrir de pathologies. Et l'idée était de peut-être, pour une fois, moins infantiliser les gens, donc les pousser à faire des choses sans leur dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, comme ça, pas trop manger, pas trop bouger, pas manger ici, pas manger ça. Mmh. Donc la dernière fois, on a vu effectivement les augmentations nécessaires. Il y a aussi un encouragement à aller vers plus de, qui va aller dans le sens d'un certain nombre de choses qui sont plutôt meilleures à la planète aussi. Donc, dans le aller vers, on a une incitation à aller vers des produits de féculents. Donc, je vous rappelle les féculents, pâtes, riz, semoule, pain également, qui vont être plus complets. Plus complet parce que ça a de l'intérêt au niveau du rassasiement et au niveau du temps de digestion de ces produits-là. Mmh. Alors, dans l'idéal, ce serait effectivement d'en avoir au moins une portion par jour. Ça veut dire, par exemple, du pain complet au petit déjeuner ou des pâtes complètes ou de la semoule un peu plus complète le soir, par exemple, ou même le midi, hein, pas de souci. Ça peut aller d'ailleurs avec un augmenter la proportion de légumes secs, les légumes secs étant des féculents naturellement complets. Donc, ça se double à ce niveau-là. On va avoir ensuite, comme je vous le disais, des incitations à des choses plus raisonnées, on va dire, donc les aliments de saison et produits plus localement. On se rend compte qu'avec la saisonnalité, on a quand même des produits qui sont de meilleure qualité nutritionnelle. Donc ça a un intérêt d'avoir des produits qui vont être plus riches en vitamines parce qu'ils sont à maturité et parce qu'ils sont dans leur bonne saison. On incite également à consommer plus de bio. Alors là, la problématique inflationniste va se télescoper avec ça parce que le bio a une tendance aujourd'hui à être en net recul, tout simplement pour des questions financières, parce que ça devient purement inabordable. On privilégie également les apports carnés. Alors les apports carnés, les apports de protéines animales, mais plutôt justement sous forme de poisson, en essayant d'en intégrer deux fois par semaine et en alternant le gras pas gras. Le poisson gras, c'est souvent le prédateur, donc c'est souvent celui qui est accusé de contenir un peu des métaux lourds. Mais globalement, alterner l'un ou l'autre, comme toujours en nutrition, avoir l'un et l'autre, c'est intéressant. Donc un poisson blanc type colin en papillote, par exemple, et une portion de thon, de maquereau ou de sardine qu'on peut trouver en conserve, donc à des prix qui restent encore raisonnables, à intégrer dans une alimentation hebdomadaire sans souci. Et puis, la variété des matières grasses et des huiles, qui reste important. On l'a eu vu hein, dans différentes approches, dans nos différentes émissions et chroniques. Les matières grasses, c'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir enlever quand on veut perdre du poids. Mais en réalité, ils sont vecteurs de sapidité, ils sont vecteurs d'énergie et ils sont vecteurs d'apport d'acides gras qui sont essentiels pour le fonctionnement, notamment au niveau du cerveau. Donc, encore une fois, on invite à la variété. Donc, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de noix, l'huile d'olive, pour varier et avoir toute cette richesse d'acides gras. Donc, finalement, les conseils ne sont pas dénués de sens sur ce nouveau PNNS, là où ils pouvaient être éventuellement critiquables, on va dire, entre guillemets, sur les obligations qu'on avait de manger à tout prix, 5 fruits et légumes par jour, à tout prix, à tout prix. Sinon, ils auront et risquaient de nous tomber des trucs sur la tête. Dernier point sur cette augmentation, sur cette allée verte, si j'ai le temps, je ne suis même pas sûre.
Oui, bien sûr, si.
C'est les produits laitiers. Et les produits laitiers, on a eu beaucoup dit, il en faut 3, voire 4 par jour, c'est indispensable. Et là, on est plutôt sur 2 produits laitiers variés par jour qui sont suffisants à l'apport général. Je rappelle que ce sont des recommandations pour des adultes bien portants. Donc, si on est sur une autre population, femme enceinte, femme allaitante ou enfant, ces recommandations-là peuvent changer. Mais là, on est effectivement plutôt sur 2 produits laitiers recommandés que les 3 indispensables qu'on avait par jour.
Très bien. OK, ben, c'est tout noté. Merci beaucoup, Charline.
Ça fait beaucoup d'infos, j'en suis désolée, c'est un peu lourd.
Non, mais c'est bien de savoir les conseils qu'on nous donne et puis de se rendre compte aussi que ça a du sens et peut-être un peu plus effectivement que ces 5 fruits et légumes qu'on ne savait pas trop d'où ils sortaient.
Et puis à ce côté, la nutrition étant quand même une science assez jeune, elle reste en mouvement. C'est pour ça que les recommandations qu'on a pu faire il y a 10 ans ont évolué depuis aussi.
Très bien. Bon, merci encore une fois. À très bientôt.
À bientôt, merci.
Ensemble sur Calade.
Allez, je vous propose d'écouter M tout de suite avec un petit peu de laisser aller. Yeah.
avec ton corps. Si tu me connais par cœur.
M sur Calade avec Laisse aller.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Allez, on est avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, tu vas être surpris. Mon point de départ est un peu saugrenu puisque je vais parler d'une pièce de théâtre qui se joue non pas à Villefranche dans la Calade, mais à Villeurbanne, au TNP Villeurbanne pour être plus précis. Et en plus, la dernière représentation de cette pièce a lieu ce mercredi soir, donc il ne faut pas traîner si vous voulez la voir.
D'accord.
Mais tu vas voir, le jeu en vaut la chandelle. Le titre de la pièce, c'est « La crèche, mécanique d'un conflit ». C'est une pièce directement inspirée de l'affaire de la crèche Babylou, qui a eu lieu en 2008, qui a éclaté en 2008. Cette affaire est partie du licenciement d'une des salariées pour faute grave, pour avoir porté son voile sur le lieu de travail, alors que le règlement intérieur lui interdisait. C'est une affaire qui a eu un retentissement national important, qui s'est inscrite dans le débat tendu des thèmes laïcité contre port du voile. À l'époque, la loi ne disait rien contre l'imposition d'une neutralité religieuse détenue dans les organisations privées, associations ou entreprises. Pour information, après un long parcours judiciaire entre 2010 et 2014, le dernier stade, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, a donné tort à la salariée puisqu'elle a rejeté son pourvoi. Pour autant, en 2018, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu un avis qui indique que le licenciement de la salariée constituait une discrimination en raison de ses convictions religieuses. D'accord ? Voilà, ça, c'est les faits. Rien que ça, déjà, il y a de quoi s'écharper joyeusement lors des repas familiaux.
Oui, complètement.
Parce que comme tu le sais, et comme vous le savez, chers auditeurs, c'est vraiment un sujet très tendu, d'accord ? Et les avis sont très tranchés, avec d'un côté des tenants d'une laïcité stricte, fondée sur un principe de neutralité. Et ces gens-là sont soutenus à gauche comme à droite par des personnes qui critiquent fortement le port du voile, considéré comme une aliénation pour les femmes. Et puis en face, ceux qui défendent la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté politique, la liberté religieuse, qui est quand même un des fondements de la laïcité, soit dit en passant.
Ouais.
Voilà. Alors un petit mot sur la crèche en question. C'est pas une crèche lambda. C'est une crèche qui était ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui a été créée par les femmes du quartier, sous l'impulsion et selon la vision magnifique de sa directrice, qui était une femme réfugiée chilienne, qui voulait intégrer les femmes du quartier et qui les a intégrées en les embauchant et en finançant leur formation. Ça, c'était la crèche Babylou, donc, qui est représentée dans la pièce. Mais la pièce qui a été écrite par l'auteur de théâtre François Yen, un nom un peu compliqué à prononcer, H-I-E-N, Yen, je pense que ça se prononce comme ça, c'est une pièce bien plus ambitieuse. En fait, elle nous propose de nous plonger dans le quartier où se sont déroulés les événements et de nous le faire vivre de l'intérieur par un procédé théâtral qui fait quasiment des spectateurs, des observateurs acteurs de ces années de déchirement. En fait, il n'y a pas de scène, il y a juste un espace étroit entre deux rangées de sièges qui sont placés face à face comme une sorte de mini-arène, ça rappelle un peu le Parlement britannique. Et la salle reste souvent éclairée. Les spectateurs sont souvent éclairés comme si on était dans la pièce. On a un groupe de neuf jeunes actrices qui ont la vingtaine à peu près, qui vont collectivement jouer tout un tas de rôles et qui ont collectivement participé à la mise en scène de la pièce. Donc, on va vivre grâce à cette pièce le point de départ du conflit, mais aussi par des flashbacks, on va remonter à la période précédente, le point de départ, où on verra l'intégration et la montée en puissance comme directrice adjointe de la crèche de la salariée qui sera ensuite licenciée. Mmh. On a ensuite le deuxième axe, c'est-à-dire l'embarquement des deux parties dans un débat national qui va les broyer, à travers bien sûr les avocats et les soutiens de la crèche notamment. Ensuite, l'étape suivante, le déchaînement médiatique national qui passe par la stigmatisation du quartier qui va être absolument terrible. Et enfin, un final qui va se passer loin, alors qui s'est passé en réalité, puisqu'on là on reporte vraiment des faits réels dans cette pièce, qui s'est passé loin des caméras et des journalistes, et c'est un moment où les habitants du quartier ont été invités à une réunion organisée par les salariés de la crèche, dans l'espoir de convaincre leurs responsables, la directrice, de ne pas déménager cette crèche dans une ville voisine. Alors, cet espoir sera déçu, hein, la crèche va effectivement déménager, mais pour autant, ce final va donner lieu à un véritable accouchement. C'est la formulation entre les deux protagonistes, la directrice d'un côté et la salariée licenciée de l'autre, de la douloureuse vérité humaine qui est à l'origine de cette rupture entre ces deux femmes. D'un côté, on a une salariée pour qui sa collègue directrice représentait une image maternelle importante. D'accord ? On a une salariée qui a vécu ses années de formation, puisqu'elle a suivi une formation pour devenir directrice financée par la crèche, comme des moments de douleur terribles. Où elle a été renvoyée à sa condition de jeune femme sortie du système scolaire sans diplôme. Elle a été renvoyée à sa condition de jeune femme qui habite un quartier qui est un ghetto repoussoir, du moins qui a cette image auprès des autres. Et une jeune femme qui va, ben, comme un certain nombre de jeunes femmes de sa génération et de son milieu, va connaître un cheminement personnel et spirituel via l'adoption d'une pratique religieuse qui va devenir fondamentale pour son identité. En face, on a une autre femme, d'origine chilienne, comme je l'ai dit, la directrice, qui a vécu dans son pays d'origine l'horreur d'une église qui soutenait ouvertement les assassinats et les tortures du régime de Pinochet. C'est une femme, la directrice, sur les épaules de qui reposait tout ce rêve d'une crèche gérée par les femmes du quartier. Le rêve qu'elle va mettre en œuvre, d'accord ? Et c'est une femme qui voulait protéger son sanctuaire de l'influence du religieux. Mais c'est une femme aussi qui n'a même pas pris conscience de la distance petit à petit qu'elle-même a instaurée vis-à-vis de sa protégée au fur et à mesure où elle voyait celle-ci entrer dans une pratique religieuse. Voilà. Et donc ce moment d'accouchement, cette prise de distance, c'est ce qui a provoqué, je passe certains détails, ce sera un petit peu long, mais c'est vraiment ce qui a provoqué cette rupture entre les deux femmes. Et ce moment d'accouchement est tellement fort que c'est comme si le théâtre avait disparu. On était tous dans une salle, qui était donc dans l'histoire prêtée par les MJC, on était tous des membres du quartier, et on a tous vécu ce moment de vérité ensemble, c'est absolument incroyable. Voilà un petit peu ce que nous raconte cette pièce. Alors pourquoi parler de cette pièce dans cette chronique, mon cher Mathieu ?
Ouais.
That is the question. Eh bien pour deux raisons. La première raison, c'est la suivante. Il m'arrive encore régulièrement avec des élèves ou des étudiants d'aborder la notion d'empathie. L'empathie, c'est une notion qui n'est pas évidente à expliquer. Être en empathie, ça consiste en quelque sorte à accepter pour un temps donné de suspendre, de mettre de côté nos opinions, nos valeurs, nos certitudes. Et déjà ça, c'est pas évident. Hein. Non, quand on a un sujet comme celui que j'évoque, mettre ça de côté...
C'est super difficile.
Voilà, c'est extrêmement difficile. On met ça de côté un temps donné et on s'ouvre à la perception de l'autre,
ouais.
De son ressenti, de ses émotions, de son discours, mais des émotions qui traversent son discours, afin de le comprendre un peu de l'intérieur, en quelque sorte. Tout en ayant conscience qu'on n'est pas cette personne, qu'on a nos propres valeurs et qu'on les reprendra une fois qu'on sera sorti de ce moment d'écoute, ce moment d'empathie. C'est cette plongée empathique que cette pièce nous invite à faire. C'est pas facile, donc comme tu l'as dit, hein, Mathieu, on a tous un avis très tranché, on bouillonne intérieurement, on prend parti, on veut participer au combat, mais non. Il s'agit de relever le défi dans cette pièce. En tant que spectateur, on doit relever le défi du lâcher-prise, de l'immersion empathique. On doit arriver à ce point où on finit par comprendre les raisons qui ont poussé la partie adverse, entre guillemets, celle que nous ne soutenons pas, à agir comme elle a agi. Et sans pour autant renoncer à nos propres valeurs, nos propres certitudes, eh bien accepter le fait que les raisons de cette partie adverse sont légitimes et même respectables. Et c'est ainsi qu'on restaure le lien qui a été tranché. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est plus générale. On en a déjà parlé un peu ensemble dans diverses chroniques, Mathieu. Toute société humaine est fondée sur des normes, des représentations, et sur un système assez sophistiqué, à la fois d'intériorisation de ces normes, mais aussi sur des règles formelles, des lois, et informelles, le regard des autres, qui nous forcent à respecter ces normes et ces représentations. Sauf qu'il arrive des périodes où certaines de ces normes et de ces représentations évoluent, et parfois rapidement. Et on est depuis 30 ans à fond dans cette période d'évolution des normes et des représentations. Je peux citer tout un tas de domaines dans lesquels ça évolue très fort. La façon dont les femmes sont traitées, la remise en cause très forte de la façon dont les femmes sont traitées. Les questions du rapport au genre sont en train de changer profondément. La remise en cause d'un féminisme plutôt à l'ancienne par des mouvements féministes beaucoup plus très différents, avec des approches très différentes. Et enfin, les analyses des dominations d'origine multiple par divers groupes, avec la notion d'intersectionnalité derrière. Tout ça, c'est des éléments par lesquels les normes et les représentations sont en train de changer extrêmement rapidement. Et quand ce genre de choses arrive, eh bien, des conflits émergent inévitablement entre les gardiens de l'orthodoxie et ceux qui veulent faire évoluer ces normes. Si tu te souviens, on avait fait une chronique sur J.K. Rowling, accusée de transphobie, qui parlait de ça à l'époque. Le sujet brûlant de la pièce de François Hien, dont je parle aujourd'hui, c'est un exemple parmi d'autres de ces conflits qui se multiplient et qui nous plongent souvent, nous, les générations, alors je vais scinder deux catégories, les générations adultes, les plus de 40 ans, dirait-on, dans des abîmes d'incompréhension face aux réactions des jeunes, on va dire, pour simplifier, les moins de 40 ans. Alors que faire ? Eh bien, c'est la troupe théâtrale de François Hien qui nous donne une piste de réponse. Cette troupe théâtrale s'appelle Harmonie Théâtrale, je mettrai des liens dans le podcast, comme d'habitude. Je vais finir cette chronique en citant leur texte d'intention. J'ouvre les guillemets. Il s'agit simplement de convoquer sur scène un arrière-plan de fièvre et de débat qui donne urgence et intensité aux histoires que nous déployons. Nous jouons dans des théâtres et des lieux non théâtraux. Nous aimons travailler à faire venir des publics peu habitués aux sorties culturelles. Nous concevons notre travail comme à la lisière de l'art et de l'éducation populaire. Nous voulons que notre théâtre soit accueillant, que personne ne s'y sente mal à l'aise parce qu'il serait entré avec la mauvaise opinion ou alors entré sans le bagage culturel suffisant. Nous ne pratiquons pas un théâtre du chaos. Nous aimons croire que le théâtre peut donner du sens, s'attaquer aux sujets les plus embrouillés et les éclairer. Nous croyons à la possibilité d'un théâtre de réconciliation. Fin de citation. Voilà Mathieu, construire notre théâtre de réconciliation jour après jour, voilà un chemin qui a du cœur. J'en ai terminé Mathieu.
Il y a du boulot. Merci beaucoup prof Patrick, à très bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, je vous propose qu'on se quitte en musique. Je vous laisse avec le dernier titre de Jane, ça s'appelle The Fool. Et je vous donne rendez-vous tout bientôt sur l'antenne de Calade. Ciao, ciao.
Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known.